Jean-François Zigel. La preuve par Z. Une émission de musique classique faite à la main et pour les oreilles. Bonsoir. Beethoven en son temps. La musique pour voix.
Du bist
Perpétuel des cordes, les ponctuations dynamiques des vents, un cœur léger et plein d'entrain, les joyeuses vocalises d'une soprano, un étonnant solo de violon dialoguant amoureusement avec la voix soliste, un grand crescendo beethovenien pour finir, c'était l'irrésistible chœur Vos Ich die Pulse, un extrait de la consécration de la maison. On inaugurait en effet à Vienne, le 3 octobre 1822, le théâtre de la Josefstadt, ce même théâtre qui verra 2 ans plus tard la création de la grandiose 9e symphonie avec chœur et soliste. Et je dois dire que je ne peux m'empêcher d'établir un rapport entre les deux œuvres, un peu comme si ce que nous venions d'entendre était une étape sur le chemin de l'hymne à la joie. Beethoven et la voix. De la scène à l'autel, des œuvres patriotiques aux pochades humoristiques, des premiers leaders aux arrangements de chants populaires, près de la moitié de ces 600 compositions, on l'oublie souvent, sont des œuvres vocales. Et parmi ces trésors, voici maintenant un air écrit pour la reprise de La Belle Cordonnière, un singspiel d'Ignaz Umlauf particulièrement populaire dans les années 1790. C'est qu'il arrivait souvent à l'époque qu'à l'intérieur d'un opéra ou d'un singspiel, le singspiel étant une sorte de comédie musicale dont raffolaient les Viennois, on trouve un ou plusieurs airs écrits par d'autres compositeurs que l'auteur principal. L'histoire de la belle cordonnière parle bien évidemment de chaussures, et dans l'air que nous allons tout de suite écouter, il nous est même précisé qu'une chaussure doit être confortable, ni trop petite ni trop serrée, et que si malgré cela on n'arrive pas à l'enfiler, alors il ne faut pas hésiter à limer les pieds.
Soll ein Schuh nicht drücken, muss man sich anschicken und überall das Erstmal sich selber hin bemühen, ihn an den Fuß zu ziehen, ihn an den Fuß zu ziehen, denn oft fehlt's an Geduld, an Geduld, den Schuh recht anzufassen, den Fuß da reinzupassen, den Fuß da reinzupassen. Doch hat der Meister Schuld voraus bei einer Frau, die will uns sehr genau den Fuß in Schuld. Doch mit Kunst dabei kein Regen spüren. Und doch mit Kunst dabei kein Regen spüren. Dabei kein Regen spüren. Dabei kein Regen spüren. Das fordert Kunst.
Merci à la soprano Shen Rice pour cette interprétation si convaincante de cette rareté beethovenienne, un extrait, je vous le rappelle, de La Belle Cordonnière. Et nous restons sur scène avec Egmont, l'une des 15 pièces de théâtre écrites par Goethe à la fin du XVIIIe siècle. C'est qu'entre théâtre et opéra, la différence n'était à l'époque pas si considérable, puisqu'au théâtre on insérait volontiers entre les scènes parlées des airs et des chœurs, sans parler de l'ouverture et autres moments purement symphoniques. Certains auteurs dramatiques donnaient d'ailleurs de nombreuses indications sur la musique qui devait ponctuer le drame, ces moments musicaux pouvant constituer jusqu'au tiers de la représentation. C'est en 1809 que Beethoven signe la musique d'Egmont à l'occasion de la reprise de la célèbre pièce de Goethe au théâtre de la cour royale et impériale de Vienne. Beethoven est particulièrement galvanisé par son sujet, la lutte des Pays-Bas contre l'occupation espagnole à la fin du XVIe siècle, alors que la capitale autrichienne vient d'être à nouveau envahie par l'armée napoléonienne. Et voici l'un des moments les plus étonnants de la partition, l'air de bravoure dit Trommel gerührt. La soprano déclame « On bat le tambour, le fifre résonne, comme mon cœur bat, comme mon sang bouillonne. »
Das Pfeifchen gespielt, mein Liebster gewaffnet, dem Haufen befehlt, die Lanze hochführet, die Leute regiert. Wie klopft mir das Herz, wie wallt mir das Blut, wo hätt ich ein Bämslein und Hosen und Hut, wo hätt ich ein Bämslein und Hosen und Hut. Hosen und Hut.
roulement de timbales, fusées de piccolo, rire sarcastique des violons dans le grave. Ce sombre héroïsme, on dirait presque du malheur, vous ne trouvez pas ? C'est pourtant Beethoven qui signe en 1809 cet air étonnant pour soprano et orchestre, tiré de la musique de scène d'Egmont. La soprano Sylvia Mackner y faisait montre d'une belle vaillance, accompagnée par l'Orchestre Philharmonique de New York, sous la direction de Kurt Mazur. Alors à côté des musiques de scène, il y a aussi les airs de concert, sorte de mini-scène d'opéra mais sans le reste de l'opéra que l'auditeur est en quelque sorte invité à imaginer dans sa tête. Dans les premières années du XIXe siècle, Beethoven en écrit notamment sous la supervision de Salieri, qui le forme à la prosodie italienne et à l'écriture vocale. Salieri, qui n'est absolument pour rien dans la mort de Mozart, je le rappelle au passage, était une figure incontournable de la musique viennoise. Maître de chapelle de l'empereur, aussi réputé que Haydn et que Gluck, professeur de Beethoven donc, mais aussi de Schubert, de Liszt, de Meyerbeer et même du dernier fils de Mozart. Pour juger de l'efficacité de l'enseignement de Salieri, écoutons l'air de concert « Ma tutremi » que Beethoven achève en 1802 sur des vers du grand poète italien Métastase. La soprano Nicole Carr, soutenue par les cordes de l'orchestre de chambre d'Australie, y déclare avec émotion « Pourquoi frissonnes-tu, mon amour? N'aie pas peur, je suis auprès de toi. Tant que les éclairs gronderont et illumineront le ciel, je resterai à tes côtés. » Quittons maintenant le faste des salles de théâtre pour gagner l'intimité des salons viennois où se développe depuis quelques années l'art de la mélodie allemande, le Lied. En 1802, donc la même année que l'air de concert que nous venons d'entendre, Beethoven en écrit 6 sur des textes d'inspiration religieuse du poète Christian Gellert. Le premier Lied du recueil, intitulé Beaten, est une fervente prière adressée au Très-Haut. Tu es mon rempart, mon roc, mon refuge.
Oh.
Matthias Goerne chantait avec émotion Beaten, un lied écrit par Beethoven en 1802 sur un poème spirituel de Christian Gellert. 15 ans plus tard, le compositeur citera mot pour mot le texte de cette mélodie dans son journal intime, au moment d'évoquer son combat pour obtenir la garde de son neveu Karl, pour lequel il développe un amour possessif et passionné. Beethoven n'est pas le premier compositeur germanique à écrire des lieder. On en trouve déjà un certain nombre sous la plume de Haydn, Mozart, Reichardt ou Zelter. Mais il est bien le premier à imaginer avec son opus 98 un cycle complet de lieder qu'il intitule « An die ferne geliebte », à la bien-aimée lointaine. Un titre qui fait forcément penser aux fameuses lettres écrites en 1812 à l'immortel bien-aimé, trois lettres jamais envoyées qui demeurent une énigme dans la vie de Beethoven. La principale nouveauté de ce cycle, à la bien-aimée lointaine, tient dans le fait que chaque lied est relié au suivant par une transition pianistique qui amène la nouvelle tonalité et le nouvel état d'âme. C'est en quelque sorte le trajet sentimental d'un homme amoureux, de la rencontre à la séparation, de la mélancolie à l'espoir, de l'hiver au retour du printemps où tout lui parle de sa bien-aimée, nuages, vent, oiseaux, ruisseaux.
Segle in den Höhen und du Bächlein klein und schmal, könnt mein Liebchen hier erspähen, riss sie mir 4000 Mal. Sieht hier Wolken, sieht dann gehen, sinnend in dem stillen Tal, lasst mein Bild vor ihr entstehen, in den lüft'gen Himmelssaal. An den Büschen stehen, die nun herzlich Falb und Kalb Tal. Klagt ihr, wie mir ist geschehen, klagt ihr, Vöglein, meine Qual. Stille Weste bringt im Wehen hin zu meiner Herzenswahl meine Seife, die vergehen wie der Sonnenletzte Strahl. Flüstrig zu ein liebes Fliehen, lass sie mich ein klein und schmal treu in deinen Wogen sehen, meine Tränen. Ohne Zahl, ohne Zahl. Diese Wolken in den Höhen, dieser Vöglein munter Zug, werden dich, o Holdin, sehen. Nehmt mich mit im leichten Flug. Wilden Spielen scherzen dir um Wang und Brust in den Seidenlocken wühlen. Teilt ich mit euch diese Lust. Hin zu dir von jenen Hügeln emsig dieses Bächlein eilt, wird ihr Bild sich in dir spiegeln. Verweilt, fließt zurück dann und verweilt, ja und verweilt. Sich die Bächen und Rinde. Die Schwalbe, die kehrt zum wirtlichen Dach, sie baut sich so emsig ihr bräuchlich Gemach. Die Liebe soll wohnen da drinnen, die Liebe soll wohnen da drinnen. Sie bringt sich geschäftig von Kreuz und von Quer, manch weicheres Stück zu dem Brautbett hier, manch wärmendes Stück für die Kleinen. Nun wohnen die Gatten beisammen so treu, was Winter geschieden verbannt der Mai, was Liebe, das weiß ihr zu einen, was Liebe, das weiß ihr zu einen. Es kehrt ihr Maien, es blüht die Au, die Lüfte, sie wehen so mild und so lau, nur ich kann nicht ziehen von hinne. Wenn alles, was Liebe der Frühling vereint, nur unserer Liebe kein Frühling erscheint, und Tränen sind all ihr Gewinn. Und Tränen sind all ihr Gewinn. Ja, all ihr Gewinn.
Nous écoutions enchaînées trois des six mélodies du cycle à la bien-aimée lointaine de Beethoven dans l'interprétation sensible et incarnée du merveilleux ténor Jan Bostridge, accompagné au piano par Antonio Pappano, qui avait troqué pour l'occasion son habituelle baguette de chef d'orchestre pour le clavier. Mais laissons le Beethoven amoureux et romantique pour un aspect bien différent de sa personnalité. On a vu dans les précédentes émissions que notre compositeur se montrait facilement bourru, voire colérique, mais qu'il pouvait également pratiquer un humour caustique et potache, souvent au détriment de son entourage. Ainsi cet éloge de l'obèse, une courte pièce chorale qu'il dédie à son grand ami violoniste Ignaz Schuppanzigh. Et quand je dis grand ami, je devrais plutôt dire gros ami, puisque Beethoven s'y moque cruellement de sa corpulence. Avec son gros ventre et sa tête d'âne, Schuppanzigh, tout le monde le reconnaît, c'est vraiment un gros bêta. Schuppanzigh, tu es le plus gros des ânes.
Schuppanzigh ist ein Lump, Lump, Lump. Wer kennt ihn nicht? Den dicken Saumagen, den aufgeblasenen Eselskopf.
Oh, Lump,
Schuppanzigh,
oh, Esel,
Schuppanzigh.
Wir stimmen alle ein, du bist der größte Esel.
Toujours dans le registre de l'humour, un peu plus fin cette fois, voici la version beethovenienne de la fameuse chanson de la puce du Faust de Goethe. Il était une fois un roi qui possédait une puce qu'il aimait comme sa propre fille. Elle fut nommée ministre et ses frères et sœurs grands seigneurs. On l'habilla de velours et de soie et plus personne à la cour n'avait le droit de se gratter, même quand on se faisait piquer. Alors vous ferez bien attention aux dernières mesures du piano qui se terminent par 6 appoggiatures jouées avec le pouce de la main droite, un doigté spécifique indiqué par Beethoven, comme si le pianiste cherchait à écraser une puce qui lui échappe sur le clavier.
Es war einmal ein König, der hat einen großen Floh. Gar nicht wenig, als die seinen eigenen Sohn. Da rief er seinen Schneider, der Schneider kam heran, war bis dem Junker Kleider und bis ihm Hosen an. Seide war ihr nun angetan, hat der Bände auf dem Kleide, hat auch ein Kreuz daran. Und war sogleich Minister und hat einen großen Stern, da wurden seine Geschwister bei Hof auf großer Herrn. Sehr geplagt, die Königin und die Zofe, gestochen und genagt. Oh, durften sie nicht knicken und weg, sie jogen nicht. Wir knicken und ersticken, doch gleich, wenn einer sticht. Wir knicken und ersticken, doch gleich, wenn einer sticht. Ja, wir knicken und ersticken, doch gleich, wenn einer sticht. Ja, wir knicken und ersticken, doch gleich, wenn einer sticht.
C'était à nouveau le ténor Jan Bostridge et le pianiste Antonio Pappano qui interprétaient pour nous la chanson de la puce de Beethoven sur des paroles tirées du Faust de Goethe qui inspireront également Berlioz et Moussorgsky. Et quand je vous disais tout à l'heure que Beethoven avait l'amour vache, voici comment le compositeur accueille son ami Schuppanzigh, encore lui, décidément c'était sa tête de turc, à son retour d'une longue tournée à l'étranger en 1826.
Pour Beethoven, Schuppanzigh est vraiment un âne. L'histoire ne dit pas comment notre grand violoniste a pris la chose. J'espère pour lui qu'il avait le sens de l'humour. Ce n'était d'ailleurs pas n'importe qui, ce Schuppanzigh. Et sans le quatuor qu'il avait fondé, le premier quatuor à cordes professionnel de l'histoire de la musique, il n'est pas sûr que Beethoven aurait trouvé des interprètes à la hauteur des redoutables difficultés de ses 16 quatuors. Bon, puisque nous sommes du côté des animaux, après la puce, après l'âne, voici la marmotte. Une mélodie dans l'esprit d'une rengaine populaire dont le texte en allemand comprend 3 mots français. Avec la marmotte. Et l'on imagine un pauvre musicien itinérant demander l'aumône en faisant faire des tours à son animal de compagnie, un peu comme les montreurs d'ours ou de singes.
Ich komme schon durch manches Land avec la marmotte.
Lampe und immer was zu essen fand. Avecke la Marmotte, avecke sie, avecke la, avecke la Marmotte, avecke sie.
Nous écoutions le ténor Peter Schreier nous délivrer avec une douce mélancolie la marmotte de Beethoven, dont la simplicité d'écriture m'amène tout naturellement à vous parler des arrangements de chants populaires que Beethoven réalise entre 1810 et 1818 à la demande de l'éditeur écossais George Thomson, un fervent défenseur du patrimoine musical et artistique de son pays. Beethoven manifeste un grand intérêt pour ce travail, par ailleurs bien rémunéré, séduit par le charme de ses mélodies écossaises pour lesquelles il écrit des accompagnements instrumentaux de piano, violon et violoncelle. Thomson confiera également à Beethoven le soin d'arranger des mélodies populaires galloises et irlandaises. En voici une que j'aime tout particulièrement, dans le mode mineur, sur le thème éternel de la jeunesse dont il faut profiter avant qu'il ne soit trop tard.
Since green, since fall, what our youth will decay, and pleasures so strange, the blood swiftly away, the song and the dance, the fire and the fair, shall banish all sorrow and shield us from care. Away with your grown-ups and morals and rules, your proctors and doctors and penance in schools. Let's seize a bright moment already in our prime, and first for the furlough catch hold for the time. For spring's lovely blues delight us no more, a summer forsake us and autumn be o'er. To cheer us in winter, events can bring the pleasures of autumn, of summer and spring. So when fleeting seasons bring lifeling to stage, to speak of your frolics shall gladden our age. Then seize a bright moment for red in your prime, and first for the furlough catch hold of our time.
Vous aurez sûrement remarqué la très longue coda instrumentale, Beethoven ne pouvant s'empêcher de développer à sa façon un petit motif rythmique de quatre notes tiré de la mélodie. Alors dans son élan, Beethoven ne s'est pas limité au seul chant britannique. Il s'est aussi intéressé à d'autres pays d'Europe, Pologne, Suède, Hongrie, Russie, Portugal, et même l'Espagne avec deux boléros, un de plus que Ravel. Tenez, voici une mélodie en danois, avec une partie de violon pas si facile que ça pour les amateurs à qui ces arrangements étaient destinés. Sur un rythme de chevauchée, les chevaliers s'approchent du château royal. L'un d'entre eux devance la troupe, il éperonne sa monture, se presse de saluer sa bien-aimée. Reste à savoir si cet impressionnant travail d'harmonisation de chants populaires a eu de l'influence sur le reste de sa production. Pas vraiment, me semble-t-il. Quel que soit le sérieux et l'application avec lesquels Beethoven a réalisé ses travaux, ces quelques 179 arrangements représentaient sûrement pour lui une parenthèse, un délassement, un travail alimentaire également. Retour maintenant aux grandes formes avec son unique opéra, Fidelio. Sa première représentation en 1805 est un four. Il faut dire qu'elle a eu lieu devant un public presque exclusivement composé d'officiers français. Vienne s'étant vidée d'une partie de ses habitants juste avant l'occupation de la ville par les armées napoléoniennes. Ne pouvant se résoudre à l'échec d'une œuvre à laquelle il a consacré tant d'efforts, Beethoven remanie son opéra et tente de gommer les faiblesses du livret. La seconde version porte désormais le titre de Léonore, mais ne rencontre pas pour autant plus de succès. Ce n'est que 8 ans plus tard, en 1814, que doté d'une nouvelle ouverture et d'un nouveau final, l'œuvre triomphe non seulement à Vienne, mais aussi à Leipzig, Dresde et Berlin, avant de conquérir toute l'Europe, de Prague à Saint-Pétersbourg, en passant par Amsterdam, Londres et Paris. Je vous propose d'en écouter le final, un message de liberté, d'humanité et de fraternité annonçant directement l'hymne à la joie de la 9e symphonie. Une irrésistible énergie, un même héroïsme, un même élan.
Yeah.
Les dernières minutes de l'opéra Fidelio de Beethoven, un enregistrement live historique de 1978 du chœur de l'opéra et de l'orchestre philharmonique de Vienne, électrisé par la flamboyante direction de Leonard Bernstein. Nous terminerons cette preuve par Z consacrée aux œuvres vocales de Beethoven par une pièce de musique sacrée, le Sanctus de sa messe en ut. Beethoven a écrit deux messes, dont la très célèbre Missa Solemnis, qu'il comptait parmi ses plus grandes réussites. Mais le Sanctus de la messe en ut figurait lui au programme du mythique concert du 22 décembre 1808, cette soirée mémorable au cours de laquelle les Viennois entendirent pour la première fois la symphonie pastorale, la 5e symphonie et le 4e concerto pour piano. Il n'était en effet pas rare que l'on mélange à l'époque au cours d'un même concert, symphonie, air de concert, musique sacrée, ouverture et concerto, voire dans le cas de Beethoven, des improvisations au piano. Beethoven avait composé cette messe à la demande du prince Esterhazy, dont le maître de chapelle n'était autre que son ancien professeur Joseph Haydn. De quoi lui donner certains complexes. Ce n'est pas sans un sentiment de crainte que je dépose cette messe entre vos mains, car votre Altesse a l'habitude d'entendre les chefs-d'œuvre inégalés du grand Haydn. Et de fait, le résultat ne convaincra pas du tout Esterhazy, qui trouve l'œuvre insupportablement ridicule et détestable. Inutile de vous dire que je ne suis pas du tout d'accord avec le prince et que pour moi la messe en ut est une vraie réussite. Je vous propose donc d'en écouter le Sanctus, dont la ferveur recueillie du début de la pièce rend d'autant plus spectaculaire le formidable élan choral et orchestral de la seconde partie sur les mots « Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ». Hosanna au plus haut des cieux. C'était le Sanctus de la messe en ut de Beethoven, magnifiquement dirigé par le chef letton Maris Janssens à la tête du chœur et de l'orchestre de la radio bavaroise. Ainsi s'achève le quatrième volet de notre série Beethoven en son temps, aujourd'hui consacré aux œuvres pour voix. Alors bien sûr, dans la foulée, j'aurais bien imaginé un cinquième volet traitant de l'improvisation, cet art que Beethoven maîtrisait à la perfection et qu'il a pratiqué toute sa vie pour la plus grande joie du public viennois, qui n'imaginait pas un concert du grand Ludwig sans un moment d'improvisation. Mais vous vous en doutez, aucun micro n'était là pour immortaliser ces moments qui devaient être absolument fabuleux d'invention, d'émotion et de virtuosité. Alors, pour rendre hommage à ma manière au Beethoven improvisateur, je vous donne tous rendez-vous le dimanche 12 juin à 16h à l'auditorium de la Maison de la Radio pour un concert intitulé « Fantaisie sur Beethoven ». Fantaisie sur Beethoven, dimanche 12 juin, 16h, auditorium de la Maison de la Radio. Réservation sur maisondelaradioetdelamusique.fr. J'espère vous y voir nombreux. C'était La Preuve par Z, une émission de Jean-François Zigel, réalisée par Anne Weinfeld et préparée avec Théo Frigono. Chef opérateur du son, Bernard Laniel. À la semaine prochaine.